Vous écoutez, on lit pour vous.
Une première femme autochtone pour gérer l'eau des Grands Lacs. Un texte de Radio-Canada avec les informations de Jonathan Mignot de CBC News, paru le 6 août 2024 sur Ici Windsor. Susan Chiblo, de la Première Nation de Garden River, dans le nord de l'Ontario, est la première femme autochtone à devenir commissaire de la Commission mixte internationale, CMI. Cette organisation s'occupe des questions touchant les voies navigables le long de la frontière canado-américaine, en particulier les Grands Lacs. Je dis toujours que les voix des femmes autochtones doivent être entendues et faire partie des processus décisionnels relatifs à l'eau, a déclaré en entrevue à CBC Mme Chiblo, qui est professeure d'études environnementales à l'Université de Guelph. Ayant grandi sur les berges de la rivière Sainte-Marie, elle dit ressentir un lien étroit avec l'eau depuis son plus jeune âge. « Mon père travaillait à la scierie et il savait que l'eau se déversait dans la rivière », a-t-elle déclaré. « Il ne nous laissait donc pas y nager. » Cette première expérience lui a appris ce qu'est la contamination de l'eau et pourquoi il est important de protéger les rivières et les lacs. « Nous avons tous besoin d'eau. Les humains ne sont pas les seuls à en avoir besoin. Toute vie terrestre a besoin d'eau », a-t-elle déclaré. « Si nous supprimions les humains de la planète, tout survivrait. Si nous supprimions l'eau de la planète, rien ne survivrait », ajoute-t-elle. La Commission mixte internationale. Les États-Unis et le Canada ont créé la Commission mixte internationale afin de collaborer à la protection des eaux frontalières. La CMI a deux mandats principaux. Régir l'utilisation des eaux communes et enquêter sur les problèmes transfrontaliers en vue de recommander des solutions. Le Canada et les États-Unis nomment chacun 3 des 6 commissaires de la CMI. Partage des connaissances autochtones. À l'Université de Guelph, Mme Chiblo se concentre sur le Nbikandaswin, ou la connaissance de l'eau. Elle affirme que son objectif est d'apporter le savoir autochtone à la CMI et de veiller à ce que les femmes autochtones, en particulier, aient leur mot à dire lors de la prise de décision concernant la protection et la préservation des voies navigables le long de la frontière. Susan Chiblo dit qu'elle est optimiste quant aux travaux en cours pour protéger les Grands Lacs et les autres voies navigables le long de la frontière. Il y a tellement de zones en Ontario qui sont classées comme zones préoccupantes en raison des contaminants, mais ces zones préoccupantes sont également en cours d'assainissement, a-t-elle déclaré. Il y a donc des raisons d'espérer, conclut-elle. C'était une première femme autochtone pour gérer l'eau des Grands Lacs, un texte de Radio-Canada avec les informations de Jonathan Mignot de CBC News, paru le 6 août 2024 sur Ici Windsor.
Les clés pour mobiliser la génération Z, un texte de France Duchesne, paru le 23 juillet 2024 dans la presse. Question d'un lecteur. Je gère une équipe de jeunes, génération Z, et le travail ne semble pas être une priorité pour eux. Ils ne travaillent pas comme moi et ne répondent pas de la même façon aux exigences en place. Je ne sais pas comment mieux les mobiliser. Lorsqu'on doit gérer une équipe composée de jeunes de la génération Z, il est crucial de comprendre que leurs attentes, leur façon de travailler et de percevoir le travail diffèrent notablement de celles des générations précédentes. Pour les mobiliser efficacement, il est essentiel d'adopter des stratégies qui tiennent compte de leur vision du monde et de leur conception du travail. Une génération branchée et engagée. La génération Z, qui comprend les personnes nées entre 1997 et 2012, est actuellement âgée de moins de 30 ans. Cette génération a grandi dans un monde dominé par la technologie et les changements rapides qui ont contribué à façonner leurs interactions sociales de manière unique. En tant que natifs numériques, ils sont très à l'aise avec la technologie et sont habitués à l'accès instantané à l'information et aux communications. Cette génération se démarque par son fort engagement social, notamment envers la santé physique et mentale, la sécurité économique, l'engagement civique, l'équité sous toutes ses formes et la protection de l'environnement. On peut, entre autres, percevoir cet engagement par leur désir de travailler pour des organisations dont la mission correspond à leurs valeurs. Une fidélité au travail modelée par l'économie. Ces jeunes ont vu le jour dans une période économiquement prospère avec un taux d'emploi élevé. Cependant, beaucoup d'entre eux ont été marqués par des bouleversements économiques comme la crise financière de 2008 ou la pandémie de 2020, période durant lesquelles ils ont vu beaucoup de leurs proches perdre leur emploi alors qu'ils étaient très investis dans leur travail. De tels bouleversements ont influencé leur fidélité envers les employeurs, qui diffèrent de celle des générations précédentes et peuvent expliquer une certaine désillusion vis-à-vis du marché du travail traditionnel. Travailler pour vivre et non vivre pour travailler. La génération Z ne voit pas le travail comme une finalité, mais comme un moyen d'obtenir de la liberté et de réaliser des projets, privilégiant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Leurs collègues aînés peuvent percevoir que les jeunes de la génération Z tentent de défier l'autorité, d'une part parce qu'ils favorisent une évaluation basée sur les résultats plutôt que sur les méthodes employées. Leurs techniques de travail sont souvent différentes de celles de leurs prédécesseurs, et d'autre part, parce qu'ils trouvent certaines attentes professionnelles traditionnelles dépassées, comme le code vestimentaire ou les horaires fixes. Les Zoomers, comme on les appelle aussi, attendent de leurs employeurs qu'ils respectent un contrat psychologique, c'est-à-dire qu'ils favorisent leur bien-être et leur développement en échange de leur performance et de leur engagement. Communication, flexibilité et reconnaissance. Il est essentiel de communiquer clairement vos attentes en établissant des objectifs précis et en vous assurant qu'ils sont bien compris pour prévenir les malentendus. Envisagez de créer des programmes de formation pour les aider à atteindre vos critères d'excellence. Offrez également à la génération Z des possibilités de carrière qui correspondent à leurs aspirations. Adaptez votre style de gestion en étant ouvert aux nouvelles méthodes de travail et aux besoins de cette génération. Montrez-vous flexible concernant les arrangements de travail, comme les horaires et les lieux, tant que les objectifs sont atteints. Répondez aux besoins de reconnaissance de ces jeunes employés en leur offrant plus de rétroaction, de soutien et en les impliquant dans des causes importantes pour eux. Organisez aussi des activités pour renforcer leur sentiment d'appartenance et leur permettre de tisser des liens avec leurs collègues. En adoptant une approche personnalisée et flexible, qui respectent leurs valeurs et leurs besoins d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, vous mobiliserez efficacement la génération Z. Ces stratégies amélioreront leur engagement et vous permettront de tirer profit de leurs compétences. Outiller les gestionnaires. Enfin, la formation des gestionnaires est un aspect souvent négligé, mais essentiel. À l'aide de l'équipe des RH de votre organisation, Sensibilisez vos collègues et vos gestionnaires aux réalités et aux particularités de la génération Z. Cela les aidera à mieux les comprendre et à répondre à leurs besoins. Vous faites partie de la génération Z? Bien que la responsabilité de créer un environnement de travail motivant incombe en grande partie à votre employeur, vous avez aussi un rôle crucial à jouer. Communiquez clairement vos intérêts, vos préférences et vos motivations et expliquez votre contexte personnel, situation familiale, intérêts personnels, etc., et professionnel, ambitions, besoins de développement, etc. Cela aidera assurément votre gestionnaire à vous soutenir et ainsi à mettre en place une relation saine et fructueuse. N'hésitez pas à demander des formations qui peuvent non seulement améliorer vos compétences, mais aussi vous aider à mieux comprendre les enjeux de votre secteur d'activité. La collaboration avec vos collègues est également essentielle. Elle vous permet de comprendre les mœurs, les valeurs et les façons de faire déjà en place, enrichissant ainsi votre expérience professionnelle. Lorsque vous cherchez un emploi, optez pour une entreprise qui correspond à vos intérêts et à vos valeurs. Assurez-vous qu'elle offre des moyens qui vous permettront de vous investir dans votre travail et d'établir des liens avec vos collègues. Échangez avec des personnes de votre génération qui y travaillent pour mieux comprendre ce que l'entreprise propose et ce qu'elle attend de vous. Votre génération est unique, avec des attentes, des qualités et des aspirations qui lui sont propres, notamment le désir de changer les choses, tant sur le plan professionnel que sur le plan sociétal. En prenant en main votre succès, vous ne vous positionnez pas seulement comme un employé engagé, mais aussi comme un acteur important dans votre organisation, capable de contribuer de manière significative à son évolution et à sa réussite. C'était « Les clés pour mobiliser la génération Z », un texte de France Duchesne, paru le 23 juillet 2024 dans la presse.
Les Acadiens peuvent-ils accroître et renforcer leur pouvoir politique? Un texte de François-Pierre Dufault, avec des renseignements d'Adrien Blanc et Héloïse Rodriguez-Xélise-Bache, paru le 13 août 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador. Le peuple acadien, dispersé dans plusieurs provinces, n'a pas son propre État ni son propre gouvernement. Mais il peut quand même accroître et renforcer son pouvoir politique, estiment des chercheurs et des politiciens. Cette réflexion était au cœur des États généraux qui ont eu lieu à Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse dans le cadre du Congrès mondial acadien CMA 2024. Présentement, la reconnaissance qui est proposée à l'Acadie, ce n'est pas une reconnaissance qui est au niveau de celle d'un peuple ou d'une minorité nationale, lance d'emblée le politicologue acadien Rémi Léger de l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, qui a co-rédigé un rapport préliminaire sur le pouvoir politique acadien au sein de la Fédération canadienne. Une minorité nationale en quête d'autonomie. Le rapport, commandé par des parlementaires acadiens à Ottawa, conclut que le pouvoir politique de l'Acadie est à la fois morcelé au sein de plusieurs lois, politiques et programmes et qu'il est dispersé entre plusieurs institutions, organismes et individus. Le peuple acadien n'est pas vraiment présent dans les structures fédérales, observe Michel Landry, sociologue à l'Université de Moncton et co-autrice du rapport. Le peuple acadien forme une minorité nationale, une minorité qui habitait le territoire des provinces de l'Atlantique et qui avait une certaine autonomie avant la Confédération canadienne et qui cherche à maintenir cette autonomie. Les Acadiens sont tout à fait en droit d'aspirer au même traitement que reçoivent d'autres minorités nationales de la part de leurs États à elles. Michel Landry, sociologue, Université de Moncton. Un Parlement acadien pour plus de pouvoir? Le rapport met de l'avant quelques propositions afin d'améliorer la reconnaissance du peuple acadien. Par exemple, les chercheurs avancent l'idée d'une loi fédérale pour enchâsser le droit des Acadiens à la gestion de leurs écoles, à l'accès à la justice en français ou encore à une représentation politique effective. Michel Landry et Rémi Léger évoque aussi la création d'un Parlement acadien ou d'une assemblée délibérante calquée sur le modèle de certains pays européens, dont la Belgique, où la minorité germanophone a son propre conseil culturel qui dispose à la fois d'un pouvoir consultatif et réglementaire. Cette avenue, écrivent-ils, permettrait au peuple acadien d'exercer un pouvoir dans des domaines névralgiques et de décider par lui-même de la meilleure manière d'assurer son avenir. Il ne s'agit pas nécessairement de transférer des pouvoirs du gouvernement aux structures acadiennes, mais aussi de s'assurer que les Acadiens ont des sièges là où se prennent les décisions, précise Rémi Léger en entrevue avec Radio-Canada. Les députés planchent sur un caucus acadien transpartisan. La présentation du rapport sur le pouvoir acadien a suscité de nombreuses réactions lundi lors d'une table ronde sur le sujet animée par les sénateurs acadiens Régent Aucoin et René Cormier. Parmi la centaine de participants réunis à l'Université Sainte-Anne pour l'occasion, plusieurs ont appelé à une plus grande prise de pouvoir pour les Acadiens. À Ottawa, les députés acadiens des Maritimes discutent sérieusement de la création d'un caucus non-partisan pour faire avancer les dossiers de la minorité francophone. Le député libéral néo-écossais Darrell Sampson dit que les États généraux au CMA nourrissent sa réflexion. Mais il ne s'engage pas davantage pour l'instant. Au sein de notre caucus qu'on va formaliser bientôt, on n'est pas en train de dire qu'on va faire adopter demain matin une loi ou une motion, mais ce sont des pistes intéressantes. Chris D'Entremont, député conservateur du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, croit lui aussi que ces discussions sont un bon point de départ pour améliorer la représentation du peuple acadien. Il s'agit, selon lui, d'un enjeu dépourvu de partisanerie politique. Le rôle des gouvernements provinciaux. Le rapport préliminaire de Michel Landry et Rémi Léger se penche seulement sur le pouvoir acadien au niveau fédéral, mais les deux chercheurs reconnaissent qu'il faudra aussi, tôt ou tard, obtenir l'appui des provinces pour accroître le rapport de force de la minorité. C'est sûr qu'on fonctionne dans un cadre fédéral, dans lequel le rôle des provinces est défini par la Constitution depuis 1867. En gros, on suggère que les Acadiens soient invités à la table et qu'on repense le partage des pouvoirs, résume Rémi Léger. Ça ne va pas se faire demain matin. Ça ne va pas se faire la semaine prochaine. Mais c'est une discussion qu'il faut avoir sur le moyen et long terme pour permettre aux Acadiens de prendre certaines décisions par eux-mêmes. Les chercheurs reçoivent les commentaires du public jusqu'au 30 septembre. Ils vont ensuite rédiger leur rapport final. C'était « Les Acadiens peuvent-ils accroître et renforcer leur pouvoir politique ?» un texte de François-Pierre Dufault avec des renseignements d'Adrien Blanc et Héloïse Rodriguez-Kizilbach paru le 13 août 2024 sur Ici Terre-Neuve et Labrador.
Les Québécois sont devenus des écureuils. Un texte de Francis Vaille paru le 11 juillet 2024 dans La Presse. On ne vantera jamais trop les vertus de l'épargne. Se priver aujourd'hui pour que s'accumule, petit à petit, un capital qui procurerait des rendements ou permettra d'acheter un logis. Mais comment se comportent les Québécois à cet égard? Sommes-nous économes ou dépensiers? Bonne nouvelle, Le taux d'épargne des Québécois est en progression constante depuis une quinzaine d'années, atteignant un sommet en 2023. Mieux encore, les Québécois sont aujourd'hui les Canadiens qui épargnent le plus parmi les habitants des 10 provinces. Ils mettent de côté 10,1 % de leurs revenus disponibles, presque deux fois la moyenne canadienne, selon les données de Statistique Canada. Le revenu disponible est le revenu après impôts, transferts et cotisations. Durant la pandémie, le taux d'épargne a grimpé partout au Canada, mais c'était beaucoup en raison des prestations versées par les gouvernements. En 2023, ces effets pandémiques ont essentiellement disparu, ce qui permet de mieux comparer la situation à long terme. Et, vérification faite, le taux d'épargne des Québécois a continué de grimper au premier trimestre de 2024, malgré le ralentissement économique. Que se passe-t-il donc au Québec? D'abord, les impôts ont baissé, permettant à certains d'épargner davantage. Les revenus d'emploi au Québec ont aussi progressé plus vite qu'au Canada anglais. Il est également possible que le vieillissement ait pour effet d'inciter davantage de Québécois à épargner pour leurs vieux jours. D'autres facteurs ont aussi eu des effets, constate le chef économiste adjoint à la Banque nationale, Mathieu Arsenault. C'est clair que les coûts de logement ont augmenté moins vite qu'ailleurs au Canada ces dernières années. Même chose pour le prix de l'énergie payé par les ménages pour leur maison, dit-il. Évidemment, l'épargne est davantage possible pour les ménages plus aisés. Ce constat vaut pour l'ensemble du Canada, mais Statistique Canada n'a pas de données par province pour l'épargne par quintile de revenus. Bref, le taux d'épargne des Québécois a admirablement augmenté ces dernières années, en moyenne, plus que partout ailleurs au Canada. L'écart est particulièrement manifeste avec les Britanno-Colombiens. Il faut dire que les Québécois, malheureusement, ont un patrimoine bien plus petit que celui des ménages des autres grandes provinces. Pire, le patrimoine relatif des Québécois, par rapport à celui des autres Canadiens, a fondu pendant des années avant de se redresser un petit peu depuis 3-4 ans. En moyenne, les ménages québécois avaient un patrimoine de 724 000 $ en 2023. Ce patrimoine équivaut à 74 % du patrimoine canadien moyen, 981 800 $. Le patrimoine est la valeur nette de tous les actifs des membres d'un ménage après soustraction des dettes. Ce patrimoine inclut bien sûr l'immobilier, après l'hypothèque, mais aussi la valeur des rentes de retraite à recevoir, en plus des autres épargnes. Notez qu'un ménage compte 2,2 personnes au Québec en moyenne. Le patrimoine moyen au Québec a grimpé de 50 % depuis 10 ans. Il varie, bien sûr, selon les revenus et l'âge des ménages. 250 400 $ pour le premier quintile de revenus et 1,96 million pour le cinquième quintile. Mais voilà, le patrimoine des Québécois a grossi moins vite que celui des autres Canadiens. En 2010, le patrimoine des ménages québécois représentait près de 80 % de celui des Ontariens. Cette proportion est passée à 62 % en 2021. Avant de remonter à quelque 64 % en 2023. Constat semblable, quoique moins marqué, avec les résidents des Prairies et de la Colombie-Britannique. La région de l'Atlantique est la seule que le Québec dépasse, par 25 % et les 3 à 5 dernières années marquent aussi un petit rebond du Québec. Vous aurez deviné que le boom du marché immobilier en Ontario et en Colombie-Britannique est en bonne partie responsable du recul relatif du patrimoine des Québécois avec celui d'ailleurs. En Ontario, par exemple, l'immobilier représente aujourd'hui 50 % de la valeur nette des ménages contre 44 % en 2013. En comparaison, cette proportion est restée à peu près stable au Québec pendant cette décennie à 34 % selon les données de Statistique Canada. Ce poids de l'immobilier se reflète dans le patrimoine, mais aussi dans l'endettement des ménages. Il s'agit d'un sujet chaud par les temps qui courent, compte tenu du niveau plutôt élevé des taux d'intérêt. Ainsi, les Britanno-Colombiens sont les plus endettés au Canada, comme on pouvait s'y attendre. La dette des ménages y représente 216 % de leurs revenus disponibles en 2023, en moyenne, un niveau inquiétant, mais stable, depuis 10-15 ans. Au Québec, ce taux d'endettement est bien moindre. Il représente 150 % des revenus disponibles en 2023, en recul sur les 165 % de 2016. L'Ontario est la province qui reflète le mieux le gonflement préoccupant de la dette des particuliers. La dette y est passée de 167 % de la valeur des revenus disponibles en 2010 à 206 % en 2023. L'endettement oblige bien des Canadiens à consacrer une part plus importante de leur paye aux paiements mensuels, notamment hypothécaires, d'autant plus avec la hausse des taux d'intérêt. Vient un moment où certains doivent remettre les clés à la banque. Paradoxalement, la dette des Canadiens est aussi en net recul depuis 10-15 ans si on la compare avec la valeur de leurs actifs. Ce phénomène s'explique par la hausse de la valeur de leurs propriétés, bien sûr. Au Québec, la dette équivaut à 14,3 % de la valeur totale des actifs des ménages, immobilier et valeur des rentes incluses, je le répète, comparativement à 15,5 % en Ontario. En 2010, ces proportions étaient plus élevées de 2,5 points de pourcentage. Voilà donc le portrait, amis lecteurs. Les Québécois semble s'être transformé en écureuil, et c'est tant mieux, vu le rattrapage à faire. C'était « Les Québécois sont devenus des écureuils », un texte de Francis Vaille, paru le 11 juillet 2024 dans La Presse.